Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Alors, je vais entrer dans une boutique et là, je cherche. Alors, c'est un jeune homme qui se trouve là. Il ne s'avance pas beaucoup, il ne se précipite pas non plus. C'est très bien. Moi, j'aime ça, cette manière de faire. On nous laisse regarder. On ne vient pas nous prendre tout de suite comme en otage et nous proposer quelque chose qui ne nous convient pas. Alors, je me dis que ce jeune, il réfléchit quand il me voit chercher tel objet. Il voit bien que ce n'est pas de l'or que je cherche. Ce n'est pas un présent très cher non plus que je cherche. Alors, tout cela va se mesurer dans sa tête, dans son cœur. Il y a une mesure entre le client et le vendeur. Et là, si je continue de chercher, il viendra me proposer des alternatives. Il connaît le matériel qu'il possède. Il le connaît. Alors, il voit ce que je veux, il voit ce que je cherche, je vais le lui exprimer. Et là, il va me proposer des modèles différents. Et j'en ferai un choix. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. C'est à la fois laisser le client dans la liberté, c'est donner la possibilité au vendeur, je dirais, de comprendre et de saisir le besoin du client. Et, en dernier recours, s'il voit qu'il y a un peu de tâtonnement, il s'avance et propose simplement des alternatives ou une aide. Ça, c'est une façon de faire que j'apprécie. Et là, on a la liberté aussi de partir en n'emportant rien. On ne se sent pas obligé d'acheter. J'ai quand même pris ce que je voulais, ce que j'avais découvert, ce que j'apprécie, et nous sommes repartis. C'était peu de choses, mais l'expérience vécue entre le vendeur et le client était excellente. Alors, la place des artistes, patrimoine mondial de l'UNESCO, comme je vous dis, nous l'avons traversée. Et là, nous cherchons encore, parce qu'on mange, hein, on mange le matin, le midi, le soir, pas trop entre les repas, et on est un peu fatigué, on a déambulé dans cette ville de Puebla, c'est... Écoutez, les églises ne sont pas nécessairement collées les unes sur les autres, là. Je vous parle d'endroits, mais il y a une certaine distance à franchir. Alors, faut trouver aussi. Nous sommes un petit peu fatigués. Et là, nous allons découvrir un endroit, un restaurant. Et nous allons décider de nous y arrêter. Moi, j'aime bien manger. Alors, on mange les choses qu'on nous sert. Et j'aime bien le climat aussi, le climat dans lequel on va se retrouver. Ce n'était pas l'idéal. Vous savez, quand on nous donne une musique qui nous fracasse les tympans, c'est pas drôle pour l'estomac. C'est ainsi que se termine ce repas, avec une musique qui nous incommode. Et là, on va prendre un taxi très modeste. Les taxis au Mexique, ce sont des Nissan. Presque tous, des Nissan. Il y en a des très, 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 très âgés. Alors nous prenons un taxi, je pense qu'il doit être de la période préhistorique. C'est vraiment pénible. Alors on le prend, le taxi qui va nous ramener à la fraternité des prêtres. Et là on va dormir dans la fraîcheur. Ce qui veut dire que dans les petites chambres que nous avons, qu'on nous offre, ça ne chauffe pas. Il n'y a pas de chauffage. Il y a de l'électricité, mais il n'y a pas de chauffage. Et c'est quand même frais. Nous dormirons, je dormirai, dans la fraîcheur, à Puebla. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Clarisse la folle s'était mise à tournoyer devant la petite église Sant'Antonio. Vite, les gens du village l'avaient remarquée. Était-ce le signe d'une nouvelle catastrophe? Venait-elle les avertir de se préparer au pire? En fait, elle était alertée par quelque chose. Pourtant, le climat était au beau fixe et la nature avait rattrapé le temps perdu. Demeurée nerveuse comme tout le monde après le fléau, Clarisse la folle bougeait un peu trop, au dire des gens. Depuis quelque temps, les moins riches avaient recommencé à lécher les bottes des riches. Les moins riches vont toujours chez les autres, car le pouvoir est là. Avant de quitter leur milieu, ils prennent bien soin de choisir le masque qui séduira et trompera les riches. Ils deviennent brutalement polis, comme les souliers des riches qui, eux, les attendent de pied ferme. Les riches aussi choisissent leur masque. Ils deviennent courtois et font entrer dans leur fausse intimité ceux qui les croient. Alors, ils s'échangent leurs masques et se quittent, les moins riches devenus courtois et les riches enfin polis. Une rencontre, donc, eut lieu secrètement chez Monsieur le maire. Les riches avaient jeté leur dévolu sur ce lieu intime qui devenait la plaque tournante de leur machination. Quant à Monsieur le maire, c'était un homme si ouvert. Les moins riches arrivèrent en avance, tandis que les autres s'excusèrent de leur retard. C'était leur travail qui les avait retenus, le débordement du masque. Comme le groupe des riches évitait d'entrer dans le vif du sujet, les moins riches, derrière leur masque de politesse, tombèrent dans l'intime panneau. Comme ils se détesteraient à visage découvert, les riches, derrière leur masque, écoutèrent avec courtoisie ce que les moins riches leur inspiraient d'arrogance.
« Vous ne trouvez pas, messieurs, que le village est trop petit ?»
commença le boulanger qui nourrissait tout ce monde. Les riches comprirent vite cette maladroite introduction.
« Trop petit pour qui ?»
répliqua le bedonnant banquier. Le rapide raccourci fit sourire les riches masqués. Se confortant les uns les autres du regard, les moins riches se mirent à décrire la situation d'urgence dans laquelle les avait mis le récent ouragan. C'était clair, le village devait prendre des mesures sévères pour éviter et repousser la venue de tout étranger qui leur enlèverait le pain de la bouche. Les riches acquiescèrent, et donnant la pleine mesure à la démesure des moins riches, ils annoncèrent sur le champ que ce serait là la mort du village. Tout devait être contrôlé, sans passe-droit aucun, du moins sans qu'ils en soient les premiers avertis. On était maintenant à deux pas d'une entente, une véritable alliance de masques. C'est alors qu'on entendit brusquement des bruits dehors. C'était des cris. Ameutant tout le village, Clarisse la folle en avait sillonné les ruelles, entraînant à sa suite les gens qui sortaient de leur maison. Elle aboutit devant la maison de Monsieur le maire, où s'attroupaient les gens désorientés. Clarisse la folle tournoyait en face de la maison de Monsieur le maire, en poussant toujours ses horribles cris. Au même instant,
on vit sortir de leur cachette moins riches et riches ensemble, démasqués par les gens du village, qui les virent tous défiler les uns après les autres. Clarisse la folle les entourait de sa danse macabre. « Que se passait-il donc ? » se demandaient-ils tous et chacun. Et voilà que, sortant le dernier de sa maison, M. le maire, essoufflé et surpris de ce qu'il voyait, dit devant tout le monde « Nous avons peur !» Trouvant ridicule cette situation pour le moins burlesque, les gens rentrèrent chez eux, les dents serrées, d'avoir encore vu le jeu des moins riches et des riches s'échangeant leurs masques. Ceux-ci, confus et découverts, pensèrent tous, sans se le dire, « Vraiment, le village est trop petit. Nous n'aurions jamais dû garder chez nous cette fillette folle. » Il n'y eut jamais plus de rencontre sur ce sujet. Les riches reprirent leur arrogance et les moins riches leur impolitesse. Petit Jean revenait de chez son père. Il y allait souvent et s'aimait. Le départ de sa mère avait provoqué la rencontre des deux. C'était maintenant nouveau de se dire qu'ils avaient besoin de l'un de l'autre. Père et fils s'expriment ces choses tard. Ensemble, ils avaient couvert d'un tapis de verdure la terre nue où reposait celle qui les avait quittés. De petites fleurs étaient apparues, toutes belles pour les abeilles qui venaient les courtiser. Le père de Petit Jean n'avait jamais aimé ce lieu de déchirement. On y venait comme tout le monde, par la force des choses. Mais là, il se sentait mieux avec son fils. Il lui dit « Il me semble que l'on voit mieux les gens quand ils sont sous la terre. » Petit Jean écoutait. « Ils ne disent rien, mais il me semble qu'on les entend mieux. » Petit Jean avait souvent réfléchi en ce lieu qu'il aimait. Il ajouta « La terre ne les cache pas, elle les révèle. » Tous deux quittèrent le petit cimetière, enrichis de ses réponses aux grandes questions. Son père prit la direction de sa maison, tandis que Petit Jean retourna près des moutons et de la dame de la montagne. Passant tout près de la vieille grange à côté de l'église, il fut étonné d'y voir jouer une petite fillette rousse. Il pensa aussitôt à la rousse reine et referma rapidement cette porte de sa mémoire. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.